Merci Nicolas. Bonjour à tous. Alors, ce matin, je viens avec une bonne nouvelle. Les enfants, si je peux avoir votre attention, 30 secondes. Parce que quand je vous voyais là tout à l'heure, je me disais que je pouvais partager cette bonne nouvelle avec vous aussi. Le soleil est là. Non, non, pas presque. Je l'ai vu. Vous pouvez demander à Monique, vous pouvez demander à Sylvain, Delphine. Je pense que Philippe et Chantal l'ont vu aussi. Le soleil est là. On est venu en voiture pour venir d'Issoire ou même de plus au sud. Et sur l'autoroute, c'était superbe. Le soleil bleu. Et puis, s'il éclairait les paysages avec les monts du Sancy qui étaient couverts de neige, c'était vraiment superbe. Alors, ici, il y a du brouillard, mais le soleil est là. Au-dessus, le soleil est là. Alors, je vais me présenter un petit peu plus pour... ceux qui ne me connaissent pas, Nicolas a déjà dit que j'ai été pasteur dans cette église, que je suis aujourd'hui secrétaire général de la fédération. Il y a quelque chose que je suis fier de dire parmi vous, c'est que je suis le père de Elliot et de Esther. James, il est avec nous, mais Elliot et Esther sont membres de cette église. Et donc, en visite ici, nous sommes avec Diane et James, notre dernier, la famille, les parents et frères de Elliot et Esther. Et donc, nous sommes contents de visiter l'église de nos enfants. Bon, Nicolas l'a dit, j'ai été membre de cette église. Plusieurs nous connaissent également, alors quelques nouvelles. Plusieurs nous demandent, est-ce que nous sommes bien installés ? Nous ne sommes pas encore installés en région parisienne. Nous sommes encore dans notre logement provisoire. Nous attendons toujours l'arrivée de notre déménagement. Il devrait arriver quand même le 2 janvier, donc on y est presque. Mais nous sommes entourés, le Seigneur est bon. Je crois que James ne me contredira pas si je dis qu'il est heureux en région parisienne, heureux dans son lycée, dans son groupe de jeunes à l'église, dans son club de théâtre, enfin sa classe de théâtre. Et puis Diane et moi, eh bien, nous avons beaucoup de travail, mais je crois que nous sommes heureux de cette aventure en région parisienne. J'en profite également pour vous apporter les salutations de notre fédération d'église, ensemble, celle dont vous êtes membre, et en particulier de son président, Nicolas Farelli. J'aimerais vous dire que nous prions pour vous. À la fédération, il y a un groupe de prière qui s'appelle les Compagnons d'Épaphras, qui toutes les semaines reçoit des nouvelles et des sujets de prière. Et vos anciens envoient des sujets de prière pour l'Église, en particulier votre défi de prière tous les mois. Et les Compagnons d'Épaphras prient pour vous, comme ils prient pour les autres églises de notre fédération. Je ne suis pas venu les mains vides, je vous ai apporté un cadeau. C'est un guide de lecture biblique quotidien et on n'arrête pas le progrès. Pour chaque jour, il y a une date, mais aussi une petite case à gratter. Comme ça, on sait où on en est. Si jamais un jour on a oublié de lire, le lendemain, on peut rattraper parce que les cases à gratter nous rappellent où on en est. Donc, j'ai confié ça à Nicolas. Nicolas qui est quelque part. Mais ce sera déposé sur le présentoir. Servez-vous, l'Église en a commandé beaucoup, et donc c'est pour vous encourager à lire la Bible tous les jours de l'année. Voilà. Ceci étant dit, je vous propose, eh bien, d'ouvrir la Bible ensemble. Et le texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans le prophète Ésaïe, à la fin du livre, au chapitre 62. Si vous voulez suivre dans votre Bible, vous pouvez, mais si vous voulez suivre la lecture que je vais en faire, c'est très bien aussi. Ésaïe, au chapitre 62. Et il est écrit « À cause de Sion, je ne me tairai pas. À cause de Jérusalem, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Alors, les nations verront ta justice et tous les rois ta gloire, et on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche du Seigneur désignera. Tu seras une couronne de splendeur dans la main du Seigneur, un turban royal dans la paume de ton Dieu. On ne te dira plus délaissé. On ne dira plus ta terre dévastation. Mais on t'appellera mon plaisir est en elle. Et on appellera la terre l'épousée. Car le Seigneur prend plaisir en toi et ta terre sera épousée. Comme un jeune homme épouse une jeune fille, ainsi tes fils t'épouseront. Et comme la mariée fait la gaieté du marié, ainsi tu feras la gaieté de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai posté des gardes, de jour comme de nuit, ils ne se tairont pas. Vous qui invoquez le Seigneur, pas de répit pour vous. Ne lui laissez aucun répit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur toute la terre. Le Seigneur l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Je ne donnerai plus ton blé à tes ennemis pour qu'ils le mangent et les étrangers ne boiront plus le vin pour lequel tu t'es fatigué. Mais ceux qui ont récolté le blé le mangeront et loueront le Seigneur, et ceux qui auront vendangé boiront le vin dans les cours de son sanctuaire. Passez les portes, frayez un chemin pour le peuple, frayez la route, ôtez les pierres, élevez une bannière au-dessus des peuples. Le Seigneur le fait entendre aux extrémités de la terre. Dites à Sion la belle, ton salut arrive. Il a avec lui son salaire, sa rétribution le précède. On les appellera peuple saint, rédimé du Seigneur. Et toi, on t'appellera cherché, ville non délaissée. Jusqu'ici, notre lecture. Je vais vous faire une confidence, mais je vous demande de ne pas la répéter. J'ai un problème avec le livre d'Ésaïe. Chaque fois que je lis, qu'en lisant ma Bible, j'arrive sur le livre d'Ésaïe, j'ai du mal à le lire. Je trouve que ça part, mais ça se répète. C'est long et j'ai du mal. C'est pas bien hein, pour un pasteur. Mais ce texte, en prenant le temps de le lire, de l'étudier, on se rend compte que c'est un texte lumineux et qui contient une telle promesse pour nous que ça vaut l'effort de se pencher dessus. D'essayer de le comprendre, d'essayer de répondre à la question « qu'est-ce que ce texte nous promet pour nous aujourd'hui ?» Est-ce que vous êtes prêts à aller avec moi creuser dans le texte ? Merci Simon. Il y en a au moins un qui est prêt à y aller. Je pense que pour voir de quoi parle Ésaïe, on a besoin d'un peu de contexte historique, parce que c'est un livre prophétique qui parle de façon poétique, mais qui est profondément ancré dans l'histoire. Quand on lit l'ensemble du livre, on voit que Ésaïe a beaucoup condamné ses auditeurs et qu'ensuite il les a beaucoup encouragés. Le livre se divise un peu en deux, comme ça, avec un changement radical au milieu, ou presque. Donc il commence par condamner ses auditeurs qui sont le peuple d'Israël, le peuple de Dieu. Et la raison de la condamnation, c'est que ce peuple qui a été choisi, ce peuple dans lequel Dieu a placé sa gloire, eh bien, quand on lit son histoire dans l'Ancien Testament, on voit une longue dégradation. Une longue dégradation de son état spirituel, de sa relation avec son Dieu. On peut lire comme ça le livre des rois, et on voit, ça commence par un mauvais culte qui est rendu à Dieu, qui est rendu d'une mauvaise façon. Puis, les rois allant et s'éloignant de plus en plus, ils se mettent à adorer d'autres choses, d'autres dieux, les dieux des nations, les dieux d'à côté. Et puis, ils ne se sont pas arrêtés là, ils sont allés plus loin jusqu'à commettre des abominations, jusqu'à sacrifier des enfants, le roi l'a fait. Dieu les a avertis, mais ça aboutit à la punition du peuple. Et c'est ce que Ésaïe annonce dans la première partie du livre. Et en 586, Babylone envahit le territoire de Juda. Israël a été envahi avant. Invasion du territoire, défaite militaire. Dévastation du pays, les villes sont rasées, les murailles écroulées et déportation des habitants. On prend les habitants et on les emmène ailleurs et on prend d'autres populations conquises et on les met à la place. C'est la dévastation totale du pays. Mais après cette première moitié de condamnation, où le prophète secoue le peuple, et puis le secoue de façon infructueuse, puisqu'il ne change pas. Juste après ça, il l'encourage. Et il y a ce changement radical au chapitre 40 qui s'ouvre avec le premier verset, « Consolez, consolez mon peuple !» Et la suite, c'est un effort de consolation. Ça ne va pas durer tout le temps. Dieu va vous rétablir. Dieu va venir vous sauver et il va envoyer un serviteur. Et il y a comme ça dans le livre d'Ésaïe ce qu'on appelle les chants du serviteur. Vous les avez certainement entendus parce que dans la période de l'Avent, quand on attend Noël, on les lit souvent parce qu'ils parlent de Jésus à venir. Il y a cette promesse de restauration, de retour dans le pays et ça interviendra puisque en 538... On est avant Jésus-Christ, c'est pour ça que les chiffres remontent. Hein. Mais en 538, sous le règne de Cyrus, roi des Perses, eh bien, le peuple reviendra. Et c'est cité dans les livres d'Esdras et Néhémie, ce retour dans le pays. Mais ce retour, eh bien, il est mitigé. Je lisais l'introduction de la Bible, Génération Bible, et il était écrit que c'est un constat relativement décevant parce que les erreurs d'avant l'exil se reproduisent. Et au milieu de ces encouragements, il y a aussi la critique de ce que les erreurs reviennent et l'annonce d'un avenir glorieux. Et le texte que nous avons lu, le chapitre 62, fait partie de cette annonce d'un avenir glorieux. Pour comprendre notre texte de chapitre 62, on a besoin de quelques clés de compréhension. Si vous avez été attentif, vous avez entendu qu'on a parlé de Jérusalem, qu'on appelle aussi Sion, et ça désigne plus que la ville de Jérusalem. Ça désigne le peuple d'Israël, en fait. Et quand on parle, quand le prophète parle des fils de cette ville, il parle des habitants et du peuple lui-même, les Israélites. On parle aussi des nations, les autres peuples. Et les autres peuples, ils ont un double rôle parce que dans l'histoire, ils ont été persécuteurs, c'est ceux qui sont venus, qui ont écrasé la ville, mais dans ce texte, ils sont aussi ceux qui vont venir, qui vont être ajoutés. Dans ce texte, Ésaïe annonce un rétablissement pour Jérusalem. La ville va changer de nom. Au lieu qu'on l'appelle la délaissée, la dévastée, c'est-à-dire qu'on se moque d'elle. Regardez cette ville qui a été détruite et qui ne ressemble plus à rien. À la place de ce nom, elle va avoir un nouveau nom. On parle d'un mariage, c'est-à-dire d'une fête, d'une alliance de cette ville avec son Dieu, avec ses habitants. On annonce que les habitants pourront bénéficier du fruit de leur travail. C'est fini les ennemis qui viennent et qui pillent. Ils pourront bénéficier de leur récolte. Et ce rétablissement, c'est quelque chose qui est très présent dans le texte. Il sera visible. Ce sera comme une lumière que les nations pourront voir. Une lumière, une clarté. Et ce sera plus encore une couronne pour le Seigneur. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. Une couronne, c'est ce que le roi met sur sa tête pour montrer qu'il est roi, pour montrer sa grandeur, pour montrer sa gloire. Cette ville, ce peuple, il est là pour montrer la gloire de Dieu. Ce n'est pas un boulet que Dieu tire derrière lui. C'est la façon dont il montre combien il est glorieux, qu'il montre qui il est. Voilà sur quoi va porter le rétablissement de Jérusalem. Et puis, il y a cette invitation plus large aux nations. Ce ne sera pas seulement le peuple, tes enfants, tes petits-enfants, etc. Non, ouvrez les portes, retirez les pierres sur les chemins, faites une route. L'invitation, elle est là. Et ceux qui arrivent sont même représentés comme le salaire de la ville. C'est votre récompense. Ceux qui viennent et qui s'achètent à vous, votre croissance, c'est votre récompense. Et au milieu de ça, quel est le rôle des auditeurs du prophète ? On aurait pu s'attendre à quelque chose de classique, changer de comportement pour obtenir cette bénédiction. Mais ce n'est pas ce qui est écrit. Parce que dans ce texte, c'est le Seigneur qui va tout faire. C'est le Seigneur qui va apporter ça. Et ce rétablissement, c'est la grâce. C'est un cadeau, ce n'est pas mérité. C'est Dieu qui le fait par amour, parce qu'il aime ce peuple qu'il s'est choisi, à cause de Jérusalem, à cause de Sion, c'est écrit au début. Cette œuvre, elle parle de Dieu. Elle parle de son caractère profond, de son amour, de comment il l'exprime. Alors, quel est le rôle des auditeurs ? Eh bien, pour les auditeurs, il y a la nécessité d'annoncer que ce temps arrive, de l'annoncer au peuple. Ésaïe dit que lui-même n'aura pas de repos jusqu'à ce que ça arrive. Et il invite ceux qui sont postés comme gardes sur la ville à en faire autant. À ceux qui perdent espoir, il faut annoncer l'espérance qui arrive. Et puis aussi, il faut faciliter l'accès à la ville, l'accès du retour des exilés, l'accès des nations. Travailler sur la route pour l'aplanir. Je disais que c'est la grâce qui apparaît dans le livre d'Ésaïe. Il n'y a pas un lien de cause à effet. Quand vous aurez fait ça, alors le Seigneur vous rétablira. Non, Le Seigneur vous rétablit. Soyez heureux, annoncez-le, travaillez à l'ouverture de la ville. La motivation, c'est d'être comme Dieu, d'être mu par l'espérance, de faire preuve de sa générosité. Voilà la restauration dont parle ce texte. C'est beau. C'est beau, mais je vais citer Mathieu Richel, toujours dans la Bible, Génération Bible. C'est beau, mais force est de constater que durant des siècles, on est resté très en deçà. Le retour en Juda n'a pas été massif. Les nations ne sont pas venues à Jérusalem pour se convertir. Et on ne connaît personne avant notre ère qui ait fait ce que devait accomplir le serviteur. Mais au premier siècle de notre ère, les chrétiens ont estimé que la plupart des annonces de ce livre trouvaient leur accomplissement en Jésus-Christ. Le serviteur dont parle Ésaïe, c'est Jésus. Et juste avant ce chapitre 62, il y a le chapitre 61, surprise, avec cette prophétie. « Le souffle du Seigneur Dieu est sur moi, car le Seigneur m'a conféré l'onction. Il m'a envoyé porter une bonne nouvelle aux pauvres, etc. etc. » Un texte que Jésus lit dans la synagogue à Capernaum. Nous avons, je me souviens avoir prêché sur ce texte ici. Jésus est celui qu'annonce Ésaïe. Et de fait, dans l'histoire, on a vu à la Pentecôte les nations affluer et rentrer dans le peuple de Dieu. L'ère de l'Église a commencé, Jérusalem a changé de nom. C'est l'Église, le rassemblement des croyants. Et le mariage est attendu, il est annoncé à nouveau dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 19, le mariage de l'Église avec son fiancé, Jésus-Christ, l'agneau. Le peuple contemporain d'Ésaïe, celui qui a entendu ces prophéties, a connu le début de l'accomplissement, mais l'accomplissement véritable de cette prophétie, il est en Jésus-Christ. Qu'en dire aujourd'hui? Que dire de ce texte aujourd'hui? Alors, j'ai dressé un peu l'histoire. Ce texte a un intérêt historique de nous parler du plan de Dieu. Mais il a plus qu'un intérêt historique. C'est pas seulement ça a été annoncé, ça s'est passé, ouais, c'est super. Non. Je crois qu'il y a plus que ça. Je crois qu'il y a un sujet de louange pour nous. Et la louange, mes amis, c'est important. La louange, ce n'est pas juste une demi-heure, trois quarts d'heure au début du culte pour attendre la suite ou pour attendre la prédication ou pour se faire du bien. Non, la louange, c'est bien plus que ça. La louange, c'est un moment où on glorifie Dieu. Cette couronne qu'il place sur sa tête. Et si on regarde ce texte, il vient nous donner un sujet de louange sans fin. Parce que nous tous qui sommes là ce matin, nous faisons partie de ce peuple, alors que nous n'en faisions pas partie avant. C'est grâce à cette œuvre de restauration que nous avons accès à Dieu, que nous pouvons nous rassembler, que nous pouvons marcher avec lui, être ensemble, frères et sœurs. Nous avons répondu à l'appel de passer ses portes. Nous sommes membres de cette cité bénie. Nous sommes ses fils, nous sommes en alliance avec elle. Nous sommes le salaire d'Israël. Plus encore, nous sommes la couronne du Seigneur, celle avec laquelle il parade, celle qui parle de lui, de sa bonté, de sa générosité, de sa grâce. Car oui, Dieu est un Dieu de grâce et de générosité. Et si parfois, dans notre quotidien, nous l'oublions, un texte comme celui que nous avons lu nous le remet en tête. Alors, émerveillons-nous à nouveau. Émerveillons-nous de cette Église ouverte où tout le monde est invité. Émerveillons-nous de ce Saint-Esprit qui nous transforme pour être comme Dieu veut que nous soyons. Mais peut-être vous dites-vous que le portrait est loin d'être idyllique, que l'Église, c'est pas aussi merveilleux que ça. On a eu des témoignages pendant le culte. Il y a des moments difficiles, des moments de doute qu'il faut traverser. Mais au-delà de nos histoires personnelles, l'Église elle-même est loin d'être parfaite. Et peut-être que, avec votre marche en son sein, vous avez été déçu par l'Église. Je connais l'histoire récente de cette Église. Je lis vos sujets de prière. Vous priez pour un rétablissement. Cette Église a été touchée. Elle a l'impression d'être à terre, a besoin de se relever. Et peut-être elle vous a déçu. Mais au-delà de cette communauté, des choses graves aussi se passent. Je ne sais pas si vous suivez les actualités évangéliques. Pas besoin de pointer les catholiques ou de regarder dans l'histoire aux guerres de religion ou aux croisades. Aujourd'hui, il y a des accusations d'abus sexuels qui sortent dans nos églises évangéliques. Un pasteur a été condamné ce mois-ci et d'autres affaires sont sorties aussi ce mois-ci. Il y a de quoi être découragé. Et certains pourraient être tentés de rejeter l'idée de l'Église, soit définitivement avec une Église pareille, c'est pas possible, Dieu n'existe pas, hop. Soit de se réfugier dans un idéal immatériel, l'Église universelle, celle que je ne vois pas mais qui est là et qui est parfaite, désincarnée. Alors, cette Église universelle existe, mais elle n'est pas désincarnée. Et cette Église évangélique baptiste de Clermont-Ferrand en fait partie de l'Église universelle. Comme les autres églises de Clermont-Ferrand, les Eaux Vives ou l'Église protestante évangélique rue de Châteaudun, ou les églises comme l'Église baptiste de Massy que nous fréquentons désormais avec notre famille. Et de ce texte, nous pouvons nous souvenir de la grâce. C'est Dieu qui fait. L'acteur principal, c'est lui. C'est lui qui bâtit l'Église. Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos efforts. Ouf ! Parce que franchement, avec nos efforts, on n'irait pas loin. C'est le Seigneur qui s'engage. C'est lui qui fait advenir. Le Seigneur l'a juré par sa main droite et par son bras puissant. Nous l'avons lu au verset 8. Comme le peuple de retour a dû se contenter d'un accomplissement partiel de la prophétie, nous devons, pour l'instant, nous contenter de cet état de l'Église en espérant le meilleur qui vient. Nous sommes comme le disent les théologiens, nous sommes entre le déjà et le pas encore. Jésus est déjà venu, il est déjà ressuscité, il a déjà constitué son Église, nous avons déjà le Saint-Esprit. Mais il y a aussi le pas encore. Le péché n'a pas encore été annihilé, la mort n'a pas encore été vaincue. Le règne du Seigneur Jésus-Christ n'est pas encore visible aux yeux de tous. Mais nous avons un gage pour fortifier notre espérance. C'est la résurrection de Jésus. Un fait historique, unique, merveilleux, qui nourrit notre espérance. de serviteur est venu. Il est mort et il est ressuscité, commençant cette nouvelle ère. Et dans tout ça, quel est notre rôle ? Eh bien, notre rôle, c'est le même que celui qu'Ésaïe donnait à ses auditeurs, celui d'annoncer ce qui vient. Le meilleur vient, et nous le connaissons. Le Christ reviendra, le péché sera supprimé, la mort vaincue, le règne se déploiera sans entrave, et nous devons l'annoncer. L'annoncer pour encourager ceux qui peuvent tomber dans la lassitude ou le découragement. Nous devons dire avec Ésaïe, je ne me tiendrai pas tranquille jusqu'à ce que sa justice s'impose comme une clarté et son salut comme un flambeau qui s'allume. Nous devons l'annoncer les uns aux autres, mais nous devons aussi prier pour que cela advienne. Vous qui évoquez le Seigneur, pas de répit pour vous. Ne lui laissez aucun respit jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et en fasse un sujet de louange sur la terre. Nous sommes invités à prier que cette promesse se réalise, que le Seigneur termine son action. Et c'est ce que Jésus nous invite à faire dans la prière du Notre Père. Que ton nom soit reconnu pour sacré, que ton règne vienne, que ta volonté advienne. Sur la terre, comme elle l'est au ciel. Pas de façon immatérielle. Sur la terre, parmi nous. Est-ce que l'accomplissement de cette promesse dépend de nous, dépend de notre prière ? Je ne crois pas. Je crois que le prier, par contre, nous transforme et en fait notre désir profond. En priant cette prière, nous nous approprions le désir de Dieu. Ça nous transforme et ça nous remplit d'espérance. Je pensais à une illustration pour ce mouvement que nous avons dans la prière et comment la prière peut nous transformer et non pas faire advenir. Quand on va dans un spectacle, à la fin, on applaudit en rythme. Encore, encore, pour que les artistes reviennent. Ce n'est pas le fait qu'on applaudisse qui les fait revenir. Ils avaient prévu de revenir, de venir partager un peu plus de moments avec nous. Mais justement, c'est ça, dans cette attente, il y a cette excitation de vouloir partager ça ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes invités à prier que le règne vienne. Excusez-moi. Priez. L'annoncer les uns aux autres, prier pour que le règne vienne, mais également faciliter. Faciliter l'accès aux nations. Ne pas faire de l'Église un entre-soi où on est content de se retrouver entre personnes qui sont d'accord les unes avec les autres. Travailler pour en faire un endroit accessible. Un endroit accessible pour tous, un endroit ouvert. Et je bénis le Seigneur pour cette église, pour ce bâtiment qu'il a donné à cette communauté, ce bâtiment visible où tout le monde peut voir qu'il est le bienvenu. Enlever les pierres, enlever le vocabulaire qui peut être difficile, enlever les sous-entendus pour que vraiment, ceux qui viennent et qui visitent se sentent attendus, se sentent les bienvenus. C'est là notre part. Non pas pour mériter notre salut, mais parce que nous sommes enthousiastes et que nous voulons que la générosité du Seigneur arrose autour de nous. Alors pour conclure, et pour conclure aussi l'année 2024, j'aimerais réactiver votre espérance. Effectivement, l'Église dans laquelle nous vivons n'est pas à la hauteur du dessein biblique, de ce que Dieu a promis dans sa parole. Mais celui qui a ramené son peuple d'exil continue de déployer son plan. Il a envoyé son serviteur Jésus-Christ pour changer les choses. Il l'a fait. Et la résurrection après sa mort en atteste. Nous sommes désormais dans l'attente de son retour, l'annihilation du péché, le règne glorieux et visible de notre Seigneur. Et en attendant ce temps glorieux, nous sommes appelés à vivre cette espérance, à la dire, à prier ardemment et à préparer l'accueil du plus grand nombre. Vous priez pour votre rétablissement. Recevez cette parole que nous avons lue. On vous appellera, vous et eux, le peuple qui appartient à Dieu. Ceux que le Seigneur a libérés. Et toi, Jérusalem, on ne te nommera plus la ville abandonnée, mais bien la désirée. Oui, il y a une bonne nouvelle. Le soleil est là, même si le brouillard nous entoure, le soleil est là, il brille. Et j'aimerais, pour terminer, inviter les musiciens à me rejoindre. Et pour entretenir cette espérance, je vous invite à chanter une autre prophétie qui vise les mêmes événements. C'est Jérémie, au chapitre 31. Le verset 13. « Alors la jeune fille se réjouira dans la danse, jeunes gens et vieillards se réjouiront en songe, je changerai leur deuil en gaieté, et je les consolerai, je les réjouirai après leur tourment. » Voilà ce que le Seigneur nous promet, notre espérance. Il est fidèle. Louons-le.